This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi, j'ai du mal, mercredi 12 octobre 2022. Il se passe tellement de choses au PSG qu'on a du mal à savoir quel jour on est, quelle heure il est. Nous allons ce soir revenir sur le... Mince, je me suis trompé dans le titre, c'est pas PSG Benfica Youth League, c'est PSG Benfica tout court, de la Champions League, des professionnels. Je m'excuse pour l'erreur dans le titre, ça changera pas grand chose pour vous. Mais en tout cas, on est parti ce soir pour débriefer le match qui était donc hier soir au Parc des Princes. Voilà, vous êtes là sur le live, je vois qu'il y a les habitués. Bonjour les bots anti-Mbappé. Oui, le PSG nous a offert une très très grande journée d'entertainment encore une fois aujourd'hui. Il faut savoir rendre hommage à ce club qui sait distraire ses fidèles comme aucun autre sur Terre. On nous dit bonsoir le Pivot Gang. Eh bien écoutez, le Pivot Gang est composé de 4 membres ce soir. 3 habitués, dont moi donc, et Mathieu notamment. Bonsoir Mathieu.
Salut à tous.
Voilà, normalement Omar est là aussi.
Bonsoir à tous.
Voilà, et nous avons de nouveau Dan Pérez de l'équipe avec nous. Bonsoir Dan.
Salut Philo, salut tout le monde.
Voilà. On nous dit qu'il ne manquerait plus que Gustavo Poyet remplace Galtier la semaine prochaine. Attendez un peu, s'il vous plaît. On n'en est pas encore là. On n'a pas viré l'entraîneur, ce qui est pourtant.
Ah, on veut Sam Allardyce pour avoir un vrai pivot, quoi.
Sam Allardyce, un nom qui fleure bon l'amateurisme anglais et la magouille. Tony, mais bon.
Tony Pulis.
Qui ça? Ah, Tony Pulis, le légendaire Tony Pulis de Stoke City, Stoke upon Trent. Non, je pense que ces gens-là ne vont pas traverser la Manche, trop attachés au football britannique. Bref, en tout cas, on va attaquer. On nous dit Mathieu devait être devant le fabuleux Barça Inter. Et écoutez, je pense que Omar aussi était devant.
Je confirme, j'étais même pour l'Inter pour une fois. Donc,
voilà.
C'est à quel point j'aime le Barça.
Il y a des ennemis pour lesquels on sait s'unir contre eux. On nous dit, je ne m'attendais pas à vous ce soir. Si, je vous ai prévenu que ça serait le mercredi soir. Je suis désolé pour l'horaire un peu tardif, ça a été compliqué tout ça, mais on est bien là. Donc on va attaquer le débrief de ce PSG Benfica Lisbonne, qui a vu le match nul un partout entre les Parisiens et les Lisboètes. Je m'excuse, ce n'est pas le live de Youth League, c'était cet après-midi ça. Je suis en train de vous retrouver les buteurs. Donc Mbappé, et les minutes surtout. Mbappé ouvert le score sur pénalty à la 39e, et Joao Mario, qui a été annoncé je ne sais combien de fois au PSG au cours des dernières années, a égalisé à la 62e minute sur un pénalty provoqué par Marco Verratti. Le premier avait été provoqué positivement par Juan Bernat sur une passe de Verratti. On retrouve l'Italien un peu partout, décidément. On va attaquer un peu sur le fameux pouls du match. Est-ce que Kylian est parti? Cet après-midi, il était à Nîmes, mais je ne crois pas qu'il va signer là-bas, en tout cas. Une rencontre qui commence un peu bizarrement. On avait vu un match aller très débridé, très intense, énormément d'occasions de but, puisqu'on avait eu quelque chose comme 12-13 occasions de but à l'aller. Là, je ne sais même pas si on arrive à 5 au total. Une rencontre, la première demi-heure, très verrouillée. Le Benfica, qui, encore une fois, gêne beaucoup le PSG. Le PSG qui n'arrive pas trop à attaquer. Le Benfica qui gêne, mais qui n'arrive pas non plus à générer des occasions, qui n'arrive pas à faire grand-chose du ballon. Et globalement, une rencontre qui joue beaucoup au milieu du terrain, voire dans la moitié de terrain parisienne, excusez-moi. Et là, je revois les occasions en relisant le live, il se passe strictement rien. La plus grosse occasion, si vous voulez, c'en est même pas une, c'est la main de Hakimi en pleine surface, qui heureusement pour lui voit Joao Mario être hors jeu quelques secondes avant. C'est un truc qu'on n'a pas du tout parlé, mais il y a quand même une main absolument hallucinante à ce moment-là. Il y a quand même un léger temps fort parisien qui à partir de la demi-heure de jeu. Et ensuite, il y a ce pénalty parisien. On se dit, bon, le Paris ouvre le score en n'ayant pas été bon. Mais malgré tout, à la mi-temps, je trouve que le 1-0 est plutôt. Peut-être pas logique, mais quand même, le PSG est plus intéressant. Il n'y a pas non plus des grosses occasions, même il n'y en a pratiquement pas, mais je trouve qu'il y a une domination malgré tout d'ensemble. On débute la seconde mi-temps un peu pareil, je trouve, de Benfica qui gêne bien. Le PSG a quand même une belle, belle occasion avec l'action de Neymar qui renverse pour Hakimi, qui re-renverse vers Mbappé qui cadre pas. On a quand même une première alerte juste avant l'heure de jeu avec le centre sur lequel Gonzalo Ramos devance Marquinhos, qui passe pas loin. Mais malgré tout, Benfica n'est pas vraiment dangereux. Puis arrive ce pénalty qui sort franchement de nulle part, parce que c'est rare que Verratti fasse un tacle. Il tacle beaucoup, il prend des cartons, mais en général, dans la surface, il fait pas n'importe quoi. Et là, je pense qu'il juge mal la ligne où est Rafa Silva par rapport à lui. Ce pénalty complètement stupide, il n'y a rien à dire, il y a faute. Hein. Enfin voilà, parce que vous avez tous dû faire comme l'arbitre, quand vous voyez le ralenti, vous êtes obligé de siffler. Au bout d'un moment, tu peux pas discuter, il lui marche sur le pied en pleine surface. Et arrive après cette dernière demi-heure, c'est quand même une demi-heure après où le PSG a le temps de marquer. Mais finalement, on n'arrive pas vraiment à bien attaquer. Benfica défend remarquablement, jamais paniqué, toujours bien quadrillé, la surface bien protégée, le chemin du but est toujours parfaitement empêché, verrouillé. Il y a quelques escarmouches, il y a des débuts d'occasion, il y a ce but de Mbappé hors jeu, il y a beaucoup de tacles très durs, ça a joué dur hier soir quand même. Il y a eu des... Moi j'ai compté 2-3 joueurs, il y a Mbappé qui a fini à moitié blessé, Neymar qui finit lui aussi à moitié blessé, je crois qu'il y en a encore un autre à un moment qui prend un sale coup, je ne sais pas, Sarabia qui prend un sale coup aussi, bon, c'est un peu moins grave, mais voilà. Et en fin de rencontre, il y a cette action en plus avec Draxler. Mais comme Mathieu, tu me dis, ouais, tu comptes zéro occasion hors pénalty, c'est pratiquement ça. La seule vraie occasion du match, au final, c'est cette frappe de Mbappé sur ce double renversement. Mais un match très très pauvre en occasion de but, alors que l'aller avait été assez, assez impressionnant à ce niveau-là. Intense, mais je trouve dans le mauvais sens, intense avec la défense qui annihile l'attaque de façon assez terrible. Et au final, un match nul qui n'est pas volé du tout pour Benfica, qui nous a remarquablement gênés. Pas très glorieux pour le PSG, qui n'a pas vraiment été intéressant. Et comme on dit sur live, on a fait une erreur de débutant, parce qu'on a concédé encore un pénalty, où il n'y avait rien. 23 pénaltys concédés sur les 10 dernières années. Donc, un match vraiment particulier, auquel j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais alors pas du tout, aussi peu d'occasions, un match aussi verrouillé, je ne sais pas si l'un d'entre vous l'avait vu venir comme ça. Vraiment particulier. Et ça, on me dit sur la live, est-ce que vous pensez que le match de la Juve a eu un impact? Enfin, peut-être, mais j'ai envie de dire, c'est pas normal, quoi. Au bout d'un moment, Mathieu, tu penses qu'il y a eu arrangement, un petit match nul qui fait plaisir à tout le monde pour sortir les Turinois?
Non, je pense pas que ça a été concerté ni préparé, mais c'est vrai que quand t'as vu le résultat sur le terrain, tu pouvais dire que ça ferait un peu le biscotto, comme on dit, c'est-à-dire le match où inconsciemment ou consciemment, les deux équipes savent que le match nul les envoie quasiment sur le prochain tour. Donc.
Ouais.
C'est-à-dire que les deux s'en sont contentés, mais je pense aussi que les compos annonçaient un match peut-être moins débridé qu'à l'aller.
Oui.
L'absence de Messi côté parisien, l'absence de David Neres côté Benfica, remplacé par un milieu de terrain reconverti à gauche.
Et un travailleur côté parisien.
Ouais. C'était Orsnes et Sarabia du coup qui remplaçaient Messi. Forcément, tu avais sans doute moins de talent des deux côtés. Aussi, c'était le quatrième match en 10 jours pour les deux équipes, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, oui.
Forcément, tu tires un peu la langue. De notre côté, ça, c'est vraiment ressenti. Bon, on sait qu'on a un effectif qui est peu sollicité en profondeur, c'est-à-dire qu'on tire beaucoup sur les mêmes joueurs. Je pense qu'il y a un peu une baisse en termes d'inspiration. Et après, il y a aussi des considérations peut-être plus tactiques et plus ponctuelles. Je pense qu'on aura l'occasion de beaucoup parler du match de Mbappé, la façon dont il l'a joué très côté gauche, mais avec des différences qui ont parfois pu être faites, aussi avec, pour conséquence de l'éloigner du but, tout simplement, parce que le problème dans le foot, c'est que le but est dans l'axe, et il n'y a pas vraiment de possibilité pour le PSG d'attaquer directement la surface adverse avec Mbappé aussi excentré. Après oui, sur l'ensemble du match, je trouve que c'est un match où les deux équipes sont complètement neutralisées. C'est vraiment le modèle du 0-0 parfait, entre guillemets, ce match-là. Et ça finit pas à 0-0 parce que des deux côtés, tu as eu une erreur un peu de, je sais pas, un manque de lucidité ou une naïveté un peu de deux joueurs, Antonio Silva côté Benfica et Verratti côté parisien. En dehors de ça, ça a été complètement verrouillé. Benfica bien pressé, notamment sur le début du match. Paris a vraiment eu du mal à trouver des solutions à la relance. Et on était vraiment loin de se créer des occasions et loin de créer des situations. Et à l'inverse, quand Benfica récupérait la balle et était dans notre camp, ils en faisaient vraiment très peu et on ne les a pas sentis en mesure de déséquilibrer notre bloc. Et c'est un match qui finit à 7 tirs partout, pour donner une idée.
Donc, je sais, la, vraiment... pré- l'après-midi, j'avais vu un match de Youth League où Benfica avait fait 17 tirs en une mi-temps. Donc, je me suis bien rendu compte de la différence, t'inquiète pas.
Donc, ouais, c'était. Mais après, Benfica aussi, à l'aller, avait fait 9 frappes, je crois. Donc, au final, ils ont pas été, ça n'a pas été les vagues non plus sur la double confrontation.
Non.
Pour le PSG, c'est clair que ça laisse des regrets parce que je sens qu'il manque vraiment de la fraîcheur en termes de. En termes de création et déséquilibre offensif, t'as pas tes joueurs au meilleur, dans la meilleure forme ni dans le meilleur état psychologique pour Mbappé, forcément. Et c'est très décevant parce que face à une équipe Benfica, dont tu sens que ok, c'est bien organisé, etc., mais je pense qu'en termes individuels, il y a certains manques malgré tout. Un écart qui peut être constaté entre les deux équipes et tu l'as pas matérialisé par au moins une victoire sur les deux confrontations. Donc c'est en ça que c'est assez décevant. Et avait la possibilité de quasiment assurer la première place après ce match-là.
Ouais, c'est ça, moi, qui me gêne le plus. Ouais. C'est vraiment le fait de sentir que tu as loupé la qualif. Bon, t'es pas trop mal, parce que si je me trompe...
Oh, la qualif est quand même très bien engagée. Il faudrait un tremblement de terre pour se faire éliminer au premier, enfin, dès les poules. Par contre, la première place, elle va sans doute être disputée jusqu'au
bout.
Sur le déplacement à Turin, en fait. Donc, à voir ce que la Juve aura à jouer sur le dernier match. C'est vraiment une occasion ratée à ce moment-là, à ce niveau-là, de pouvoir, dans un calendrier qui est déjà très chargé, de pouvoir déjà régler cette question-là assez tôt.
Ouais. Petit tour sur le live avant qu'on donne la parole à Omar et Dan. On nous dit que ça ferait plaisir que deux des trois clubs pro Super League se fassent sortir dès les poules. Bah, écoutez, ils pourront cultiver leur science du complot, parce que c'est le grand truc à la mode côté Barcelone en ce moment. On nous dit, vous pensez quoi du podcast? Jamais écouté, donc je peux pas vous le dire. Nombre d'erreurs techniques et de mauvaises passes incroyables vis-à-vis des gradins. Oui, globalement, par rapport au match aller, c'était un peu pauvre, on va pas faire semblant. Techniquement, on a vu beaucoup mieux. On nous dit, le seul tir cadré de Benfica, c'était le péno quand même. Il n'y a pas une frappe de Benfica au milieu de partie où Donnarumma est capte tranquillement, ou c'est à Reims? Bref. Bon, ça, quand on en est à même
pas score sur... au score donne un seul tir cadré à Benfica. Donc.
Bon, bah ça, donc effectivement, ça doit bien être le penalty. On nous dit même côté portugais, c'était très moyen les sorties de balles, le reste c'est trop moyen. Côté portugais, c'était très moyen quand il s'agissait d'attaquer. Moi, je trouve que pour le coup, ils ont quand même très 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 bien défendu. Enfin, on va en reparler après, mais bon. Et on nous dit pour la première place, le PSG a un but d'avance et un but de plus encaissé. Ouais. Et puis surtout, le PSG est déjà allé à Raifa alors que Benfica doit y aller. C'est pas rien, voilà. On nous dit la Juve qui nous renverrait Paredes dès cet hiver. Non, il va y rester, ils se sont arrangés pour faire toute la saison. Bon, voilà, c'est comme ça. Et on nous dit, on a eu assez de drama pour l'instant, l'élimination en poule, on se la réserve pour l'année prochaine. Eh, ma foi, ça c'est finement vu, ça. Tiens, on n'a pas encore fait ça. Notre milieu a été broyé par celui de Benfica, oh, je sais pas. Omar, pour ton avis un peu générique sur ce PSG SLB d'hier soir, qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que tu en gardes? Pas grand-chose de positif, j'imagine.
Compliqué de... Vu du contexte global, dans ce match, d'une hystérie totale autour du club et des différentes annonces, mais si on se cantonne à la production, c'est un qui est inabouti. Et abyssal offensive, très clairement, le niveau de créativité et de proposition offensive est bas par rapport.
Allô? Ouais, ça coupe, Omar, ça va pas te couper, je suis désolé. Tu disais que le niveau de production offensive était très bas, tu nous entends là? Désolé, le ami live. Oui, tu t'es revenu là, c'est bon?
Allô? On t'entend très bien?
Ouais, je sais pas, ça avait coupé chez moi, on t'entendait plus du tout. Enfin, vas-y, reprends.
Ok, donc je disais que la production offensive qui est, à mon sens, anormalement bas, qui a reproduit à plusieurs reprises ces dernières semaines, donc qui ressemble peut-être à une tendance, un milieu de terrain qui a, à mon peu sur le match et peu de propositions également. Donc ça donne ce match face à une bonne équipe, très bien préparée sur le volet défensif, qui a bien annihilé les côtés forts que Paris a pu montrer au mois d'août. Et c'est vraiment un match pas très faisant en bien des endroits, et une présence vraiment qui collectivement laisse un, mais qui sur certains cas individuels appelle à des changements à mon sens assez rapides et à un élargissement du groupe, je pense, nécessaire parce qu'il y a des joueurs hors du coup psychologiques, mais tout simplement pas la forme hier pour un match de la dimension de la Ligue des Champions, quoi, tout simplement à ce moment-là de la saison. Donc, contenu vraiment, j'ai vu le plus mauvais match de la saison pour moi, de Paris, en tout cas sur le volet offensif. Et tombe vraiment pas au bon moment ce match-là, à mon sens.
On dit Omar semble affecté. Je pense que Omar est plus gêné par sa connexion internet que vraiment gêné à ce point-là. On nous dit niveau contexte, on est loin du rectangle vert et de la dignité. Oui, là, hier, on n'était pas. La journée n'a pas été très rectangle vert et encore moins dignité. Hein, ça, on peut pas dire le contraire.
Oui, Omar. Avant, pour répondre à la question, ouais, moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le match d'hier, mais vraiment. Enfin, ça m'a replongé au printemps dernier.
Oula, des matchs qu'on n'aimait pas voir, et encore moins revoir d'ailleurs. Dan, bon, on va un peu avancer, tu rejoins, on est tous d'accord que le match a été très très pauvre offensivement, tu es d'accord ou pas? Ou tu aurais peut-être...
Ouais, c'est factuel, pour le coup, c'est factuel. Bon, après... Éventuellement, si le staff veut retenir des choses un peu plus positives, tu peux aussi te dire que tu as concédé assez peu cette tir. Pas d'occasion, à part le péno, on l'a dit. Après, c'est lié au rythme du match. J'ajoute à toutes les absences dont parlait Mathieu, l'absence de Nuno Mendes pour Bernat, donc un joueur vertical, un peu plus vertical, qui sort pour un joueur... plus de conservation et qui est plus à l'aise quand le rythme redescend. Donc tout ça, voilà, a participé d'un match pauvre en occasion. Il y a peut-être 2-3 trucs à noter dans les choix de Galtier, pas seulement dans la compo, mais dans l'animation. Quand Sarabia remplace Messi, on pouvait potentiellement s'attendre... D'ailleurs, Mathieu en avait parlé, il me semble, lundi. On pouvait potentiellement s'attendre à ce que Vitinha... change de côté pour reformer le 5-3-2. Donc le 5-3-2 qu'on avait vu, qu'on voit souvent et qu'on avait vu notamment à Lisbonne. Et là, pour le coup, en fait, il a plutôt fait le choix d'un repli à 4 milieux. Donc Sarabia qui se replie à droite, Neymar qui se replie à gauche. Paris n'a pas été très efficace les rares fois où ils ont essayé de sortir pour gêner un peu Benfica. Hein. Il y a 2-3 fois... notamment sur l'action qui mène au péno de Verratti, où Benfica sort facilement. Et ensuite, comme deuxième, en plus de, évidemment, le côté excentré de Mbappé, comme deuxième élément marquant, tu avais la position encore plus ancrée, encore plus systématique de Marquinhos au milieu, qui, je crois, puisqu'on a déroulé les choses qui n'allaient pas et qui étaient un peu triste à l'issue de ce match, s'il y a au moins quelque chose aussi qui peut être positif, c'est que à la perte de balle, j'ai trouvé Paris un peu plus consistant. Ils se sont fait peur sur 2-3 moments notamment en fin de première période, ça force un peu une relance et ensuite Benfica arrive jusqu'à la surface de Paris. Mais globalement, alors la position de Marquinhos, elle a pas eu que des avantages à mon avis, on y reviendra sûrement. Mais voilà, dans le dernier point peut-être positif de ça, c'est qu'il y a eu, je pense, une meilleure réaction quand la balle était perdue dans l'entrejeu. Et je trouve que, peut-être que Paris peut s'appuyer là-dessus. Mais sinon, oui, je vous rejoins évidemment sur le côté terne du match. Mais comme on disait avant le podcast, je crois que le PSG avait mis tout son influx nerveux avant le match. Il n'en restait plus beaucoup à 20h45 à 21h pour le coup d'envoi.
Ah, ça, la journée... Il faut même rabaisser un peu nos ambitions en termes de jeu pour le PSG, je pense, d'ici la prochaine trêve, entre absolument l'état physique des uns et des autres et ton meilleur joueur des deux dernières saisons qui est en guerre ouverte avec le club, etc. Je pense qu'il faut baisser un petit peu le curseur. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu notes, Dan. Effectivement, c'est ce qu'on peut retenir du match d'hier. Je pense que la réaction à la perte, parfois meilleure côté parisien, je pense que c'était assez cyclique. Tu citais Philo tout à l'heure, la période avant le but. Cette 10 bonnes minutes où on est plus haut dans le camp adverse, on récupère quelques ballons, il y a des séquences de possession qui sont un peu plus marquées. Là, typiquement, c'est des séquences où on récupère le ballon un peu plus haut et ça donne cette impression-là. Effectivement, la position de Marquinhos, ça a été, on l'avait déjà vu évidemment sur les matchs précédents, notamment à la relance pour donner des solutions. Là, ça a été poussé dans un bon cran plus haut, on va dire, que ce soit par consigne ou par ressenti du joueur, parce que tu n'avais pas besoin de garder trois défenseurs centraux, ça paraissait évident en deuxième période. C'est un seul attaquant, et encore, c'était même pas un attaquant de métier, je pense, à Benfica quand il sort Ramos.
C'est une fausse pointe.
Je suis pas sûr de. Ouais, c'était vraiment. Il n'y a vraiment plus de danger. Benfica, comme au match aller, a fait les 20-30 dernières minutes pour pas forcément jeter toutes ses forces dans la bataille. Mais là, c'était vraiment poussé encore un cran plus haut parce que tu avais l'impression parfois de revoir une organisation un peu à la Tourelle, en fait. C'est-à-dire avec Marquinhos et Verratti en double pivot assez élastique, où tu avais parfois Verratti plus bas que Marquinhos à la relance. Tu avais Vitinha ensuite et Neymar un peu entre les lignes au cœur du jeu, comme tu avais Di Maria et Neymar à l'époque sous Tourelle, et tu avais le duo Mbappé-Sarabia, idem que tu avais déjà vu sous Tourelle en pointe, avec Mbappé plus porté sur le côté gauche. Et tu as même vu des amorces d'action qui ressemblaient beaucoup à ce PSG-là, c'est-à-dire avec Neymar qui récupérait la balle un peu axe-axe gauche, assez bas sur le terrain, et qui lançait de suite Mbappé en profondeur, Mbappé partant du côté. Et comme ça, quelques réminiscences, j'ai trouvé.
Ouais, on a retrouvé aussi une petite connexion Verratti-Neymar aussi sur quelques actions, c'est-à-dire les trois échelons Verratti qui arrive à trouver Neymar et qui ensuite lance Mbappé, effectivement, qui a rappelé un peu le 4-2-2-2 parfois utilisé par Tuchel. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Galtier est vu comme le coach de la défense à 3, et hier, Paris a très souvent relancé à 4, c'est très souvent retrouvé à 4, et Pochettino est vu comme le coach de la défense à 4, alors que typiquement, on prend le match contre Madrid, la structure avec le ballon, elle est clairement à 3, avec Danilo qui descendait à droite, donc voilà, tout ça bouge beaucoup. Après, moi, je suis un peu sceptique. Alors, sur la deuxième mi-temps, la deuxième partie de la deuxième mi-temps, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Mais je suis un peu plus sceptique sur le début de match, le côté systématique. Je trouve que, déjà, factuellement, les premières relances, ça a été très, très compliqué. Dans la première minute, ballon rendu. La deuxième relance aussi, la troisième aussi.
Marquinhos s'est pris dans la densité assez tôt dans le match aussi.
Voilà, et en fait... Ce que j'ai essayé de comprendre, alors j'ai vu, au bout d'un moment, en revoyant la nuit dernière, donc en bossant sur le match, j'ai compris aussi l'idée d'une meilleure présence à la perte de balles. Je pense que Benfica a moins transpercé le PSG, et puis globalement, le PSG qui souvent était transpercé à la perte de balles et devait reculer énormément, c'est moins souvent retrouvé dans cette situation. Et après, avec le ballon, moi, j'ai trouvé que le fait de laisser tes deux centraux dans des situations parfois où le Benfica venait de chercher en 4-4-2, donc avec deux attaquants, ça a donné, pour moi, ça a créé plusieurs problèmes. Donc déjà, ça a permis à Benfica, avec l'égalité numérique, d'enfermer un peu plus facilement Paris sur le côté et le forcer à allonger ou à le perdre. En première mi-temps, il y a des tonnes de situations comme ça. Je trouve que ça donne beaucoup de responsabilité individuelle aux défenseurs qui doivent créer en fait le déséquilibre par eux-mêmes. Alors Danilo a essayé de le faire plutôt bien d'ailleurs sur des crochets, même des dribbles ou des conduites, mais je trouve que c'est les mettre dans des situations de crise un peu trop tôt dans la construction de l'action. Et ça donne aussi à... Alors il y a Marquinhos qui est un peu trop dans la densité, parfois tu le notais, Mathieu, et je trouve que ça donne aussi une responsabilité, un rôle protagoniste à Donnarumma trop important, parce que si t'es à 2 contre 2, ton gardien est censé être celui qui va faire le troisième, qui peut potentiellement aller trouver des décalages, etc. Je suis pas sûr qu'on lui donne des situations qui lui correspondent complètement, hein, qui va le mettre en confiance, bon, même si il est irréprochable. Mais voilà, j'ai un peu de mal quand même avec ça. Verratti a dû décrocher plusieurs fois. Alors ça, on peut estimer que c'est naturel. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a quand même plusieurs situations où on aurait pu avoir Marquinhos sur la ligne de 3 pour justement créer ce premier décalage. Il est capable de le faire. Et Verratti un peu plus haut. Il y a des moments où c'est arrivé. Et à la 3e minute, à la 35e... La fameuse action où Sarabia fait son bon contrôle orienté et ça enchaîne après Mbappé envoie une cloche à Hakimi, bah là typiquement Marquinhos est celui qui est le décroché entre les centraux. Voilà, moi j'ai pas toujours trouvé ça très très pertinent à la relance. Voilà, je trouve que ça crée des situations de crise un peu trop facilement pour pas.
En fait, ce qui est marrant, parce que ce que tu dis, c'est un peu ce qui s'était passé déjà la semaine dernière à Benfica. Et Galtier, sa réponse, au lieu de redescendre Marquinhos et tant pis d'écarter encore plus Danilo et Ramos à la relance, il a encore plus fixé Marquinhos au milieu de terrain, quoi.
Ouais, mais à la limite, c'est bien. En fait, ça dépend du moment de l'action. Enfin, si tu veux, quand tu passes un rideau, je trouve que Marquinhos est excellent. Alors, les moments où il l'a bien fait à l'aller, c'est dans un deuxième temps, à une hauteur différente, il va venir s'insérer parce que tu n'as pas besoin de rester à 3. Une fois que tu as passé un rideau, il vient et je trouve qu'il le fait bien, il lit bien. Pour le coup, ça, il le fait encore bien. Il lit bien les espaces où il faut venir se présenter. Parfois, il va même s'excentrer sur un côté. Il y a une situation où il participe comme ça à la combinaison sur le côté droit. Donc ça peut être, et je trouve que c'est une option intéressante. Mais il y a une différence entre le faire au préalable sur toutes les actions et le faire dans un deuxième temps de ta construction, quand le premier rideau est franchi, de lui demander de sortir et d'apparaître plus haut.
Ouais. On lui dit des fois Marquinhos était au milieu et Verratti entre les centraux, on m'explique. Ben ça après c'est lié aux caractéristiques des deux joueurs. Verratti est un joueur qui est capable de descendre même jusque dans ses 6 mètres pour relancer s'il estime que c'est nécessaire, alors que Marquinhos va peut-être plus suivre les consignes à ce niveau-là, donc faut pas non plus s'inquiéter énormément. Après, moi Dan, dans ce que tu dis sur la relance, je te rejoins, même si je trouve que Ramos et Danilo ont été quand même bien meilleurs qu'à l'aller, et que c'est vraiment un truc qui m'a choqué, c'est à quel point le bloc parisien est allé dans la longueur, quoi. Je me souviens des propos d'Omar au mois de juin quand on enchaînait les podcasts Galtier, qui nous rappelait que Galtier aimait les équipes très courtes sur la longueur du terrain. Là, on est une équipe. Heureusement que le terrain fait que 105 mètres, hein, parce que sinon, on en sèmerait absolument partout des joueurs, quoi. Et j'avoue que forcément, je trouve que plus le temps passe. Et c'est pour moi un des gros marqueurs de la déliquescence collective du PSG actuel. Plus le temps passe, plus l'équipe est étalée sur le terrain. Et hier, déjà en longueur, en largeur, ça a toujours été le cas. On voit que les latéraux au PSG sont souvent très seuls. C'est peut-être pour ça qu'Hakimi a autant de difficultés d'ailleurs. Mais hier, tiens Lucas, bonsoir. Il y a des moments où Sarabia, on lui demande des prises de balles, il est trop seul. Benfica était au contraire une équipe très très courte et je trouve que l'écart, en fait, alors certes c'est pas forcément une bonne chose d'avoir deux équipes très très courtes parce que t'as trop de joueurs restreints dans un tout petit périmètre, bah, ça donne le fameux match Klopp contre Schmidt où ça avait été un essaim d'abeilles qui courait après un ballon, mais il y a vraiment un écart tel entre nos lignes qu'en fait à chaque fois que tu passais ta première ligne de Benfica c'était déjà un petit miracle. Donc ensuite, le ballon au milieu du terrain où tu te prends une ligne adverse, où ils sont vraiment beaucoup, t'as un autre miracle en cours pratiquement. Et ensuite, te connecter aux attaquants, bah, vu qu'ils sont sous... Enfin, je trouve que chaque palier passé sur le terrain était pas une aberration, parce qu'il ne faut pas abuser, mais une difficulté terrible. Et j'ai pas l'impression qu'on ait réussi en cours de match à prendre en compte ce truc, quoi. Et moi, ça me gêne parce que je vois qu'on a couru hier 111 ou 113 km, donc c'est très bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus une équipe désarticulée. Et comme dit Mathieu, et je le rejoins totalement, il ne faut pas vous attendre à voir beaucoup mieux dans les prochaines semaines parce que les joueurs ont de plus en plus en tête la Coupe du Monde, ils ont de plus en plus en tête le fait de ne pas se blesser, l'accumulation des matchs. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais globalement, il y a une chute technique et collective qui est ultra marquée depuis la fin de la trêve internationale. Je pense que certains sont passés en autogestion, d'autres se prennent peut-être le contre-coup du début de saison, tout ça. Mais j'avoue que l'étalement des joueurs sur le terrain et à quel point le PSG n'est plus du tout un bloc. Alors, ces deux dernières années, on l'a rarement été. Hein, je ne vais pas faire semblant, même depuis plus que ça encore. Mais je trouve vraiment, moi, ce qui me choque sur le match d'hier, la relance, pourquoi pas, le peu d'occasions, voilà. Mais c'est surtout à quel point on est éparpillé sur le terrain. Et ça, ça me gêne un peu plus. Je ne sais pas, Mathieu, ce que tu en penses. Je vois que tu as ouvert le micro.
Non, je suis d'accord avec toi, mais je pense que globalement, l'animation offensive hier n'a pas été... C'est l'évidence de dire qu'elle n'a pas été performante vu la production, et Omar le rappelait et le soulignait, je pense que c'est le point qui a gêné le plus hier. Il y a quelques chiffres et quelques performances qui sont assez symptomatiques. Quand tu vois Sarabia, fin du match, 21 ballons touchés, c'est le joueur du match qui a touché le moins de ballons, derrière même le gardien de Benfica. Tu vois bien que côté droit, on a un gros problème, on n'arrive pas à vraiment créer du jeu à ce niveau-là, et c'était renforcé sur un match comme hier, où Mbappé a joué dans la position visiblement qu'il aime occuper, qu'il réclame, vraiment côté gauche, et ça a, je dirais, encore plus déséquilibré ou renforcé la focale du PSG sur ce côté-là, où vraiment tout passait à ce niveau-là, aussi parce qu'on était prêt à la relance sur le côté droit, on n'arrivait pas à relancer quand le ballon était dans les pieds de Ramos et Hakimi, mais globalement on construisait tout côté gauche, on n'arrivait pas à intégrer le reste de l'équipe dans ce jeu-là, et je pense que ça a donné une animation qui était somme toute assez déséquilibrée, où les rares moments de déséquilibre ça aurait été quand Mbappé a pris la balle et passé son crochet extérieur, et une fois qu'il avait passé son crochet simplement poussé la balle, il faisait un centre et déjà l'exécution n'était pas réussie, mais en plus l'occupation dans la surface ensuite était compliquée, parce que tu demandais à Sarabia au fond de gagner un duel à rien face à Otamendi. C'est pas joué forcément sur les qualités des uns et des autres. Donc oui, tu as l'impression que c'était pas l'organisation ou l'animation qui correspondait le mieux aux qualités des uns et des autres qui a été mise en place hier. Plutôt, elle correspondait sans doute à ce que voulait faire Mbappé, mais pas forcément à ce dont avait besoin l'équipe. Et là, on rebalancerait peut-être et on reviendrait plus peut-être à un débat qu'on a déjà eu lundi avec Rayad notamment.
Ouais. Omar, en espérant que la connexion et que SFR soit avec nous, sur un peu l'étalement des joueurs, les déficiences de l'animation collective, ça t'a aussi marqué, enfin, tu l'expliques un peu comme Mathieu peut-être, là, par une mauvaise utilisation des joueurs à disposition ou pas d'ailleurs.
Et je vais peut-être un cran plus loin que Mathieu et... Même de l'utilisation, je pense qu'il y a des joueurs opérant tout simplement en réalité entre l'attente que peut conférer un système tel qu'il est utilisé hier, la capacité supposée des joueurs actuels. Il y a un écart qui commence à ressembler à un peu de l'entêtement qui me semble vraiment être contre-productif. Pour les joueurs eux-mêmes, parce que, enfin, quand même le milieu, pour pas parler de Bernat et Sarabia, parce que pour le coup, c'est même un peu trop simple. Enfin, entre Verratti et Vitinha, enfin, quand même paraît assez clair qu'à partir du moment où il y a beaucoup de densité entre les deux et que peu de lignes de passe claires au niveau des offensifs, bah, ils perdent de l'emprise sur le match. Mais beaucoup d'emprise et à en disparaître, si je prends le cas de Vitinha par exemple, et que ça a un impact aussi sur Verratti qui s'époumonne et qui fait un match dans ses standards quelconques. Donc il y a aussi quelque chose au-delà du fait qu'on est une équipe très étirée par ce fait de jouer en. Avec des pistons, te donne beaucoup de largeur et demande d'avoir des courses profondes et d'incorporation de tes milieux. Il y a des joueurs inaptes à ce système-là au moment où on se parle. Et non, il faut changer quelque chose parce que le déficit de création, et j'insiste là-dessus, enfin, il est anormal quand tu regardes tout ce que cette équipe est censée avoir dans les jambes. Alors, il y a probablement un effet Coupe du Monde. Les productions qu'on a vues depuis au moins 3 matchs consécutifs, c'est insuffisant. C'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Et je ne sais pas si on pourra continuer comme ça, parce qu'en plus, on commence à avoir en plus de blessés. D'incorporation te réduit vraiment le champ possible. Et tu le vois avec les entrants qui sont peu ou vraiment pas très impactants. Quoi.
C'est marrant ce que tu dis sur le système, et moi je te rejoins totalement. En fait, pour ceux qui ont écouté le live sur la Youth League tout à l'heure, je trouve que j'ai vu pratiquement 2 fois le même match en 4 heures au niveau de l'utilisation des pistons, en fait. Même au niveau général d'ailleurs. C'est à quel point tu demandes à des latéraux de faire des miracles, en fait. Comme si, en fait, on joue avec Bernat comme s'il avait les qualités de Mendes, qui bien évidemment il n'a pas, parce que c'est 2 joueurs très très différents, comme l'a dit Dan en début de podcast. Hein. Tu peux pas jouer de la même façon avec Bernat qu'avec Mendes. Et Hakimi est rentré dans sa phase traditionnelle d'hibernation, où il n'arrive plus à être un joueur dominant. Et en fait, t'as du mal à attaquer, mais en plus, quand tu essayes d'attaquer, tu sais que tes joueurs sur les côtés, soit ils vont pas suivre, parce que Bernat, je pense qu'il y a quand même un problème de rythme qui va peut-être se corriger avec le temps, mais qui à cet instant est réel. Et Hakimi, il y a un problème.
C'est pas la même classe de joueurs.
Aussi, non, mais ça c'est évident, Omar.
Je suis désolé, il y a vraiment un monde entre les deux, tu vois.
Non, mais je suis d'accord qu'il y a un monde, tu vois. Nuno, il a des qualités naturelles archi supérieures, mais en théorie, Bernat, il est capable d'avoir. D'arpenter un couloir, quoi. Je parle juste en termes de disponibilité, tu vois.
Mais... Je ne pense pas, Philo. Sincèrement. Ah ouais. Après, peut-être que je m'acharne, mais moi, je ne le pense pas, tu vois.
Bon, enfin bref. Même, tu vois, même sans lui demander de faire Nuno. Et c'est vrai que, comme tu dis, Mathieu, Bernat obtient le pénalty, c'est très bien. Mais par exemple, c'est pratiquement la seule fois où on le voit vraiment utilisé dans les 20-25 derniers mètres, quoi. Et Hakimi, c'est pareil. Alors, je trouve qu'Hakimi... D'un côté, il en fait pas assez, d'autre côté, il en fait trop, il y a ses limites techniques et tout, il y a plein de trucs, mais globalement, tu as une équipe aujourd'hui qui est assez dysfonctionnelle dans le sens où elle est complètement étalée sur le terrain avec plein de joueurs derrière, pas grand monde au milieu et 3 types perdus devant, qui est en schématisant et en caricaturant. Et en plus, quand tu attaques, tu as 2 latéraux qui ne te servent pas à grand chose, donc au final, tu attaques sur une bande de 40-50 mètres de large. Et en plus, t'as un plus ou moins un ailier à gauche avec Mbappé qui fait, on peut pas lui retirer ça, d'énormes différences balle au pied. Et t'attaques pas à droite. Donc en fait, ton adversaire, il est tranquille. Je crois que c'est ce que disaient les gars de vue du banc. Otamendi joue central gauche. Il prend un carton au bout de 20 minutes. Et Otamendi, il a 33-34 maintenant. Enfin, voilà. Il va pas vite. On l'a pas challengé une fois du match après le carton jaune.
Je regrette. Ah, tu veux déjà aller sur le terrain Mbappé, Philo?
Non, mais c'est pas que Mbappé.
Non, mais en revanche, qu'on peut dire, c'est que peut-être que Mbappé était content de la présence de Bernat, parce que pour le coup, ça lui libère les zones, des zones excentrées à gauche. Ouais, parce que avec Nuno, je suis pas en train de dire que c'est bien, hein, mais je pense qu'il y a aussi une corrélation, parce que quand Nuno joue piston. Et qu'il lui est demandé de pas mal verticaliser, de faire des appels assez hauts, etc. Bah forcément, ça occupe des zones dans lesquelles Mbappé peut moins facilement aller. Tu vois ce que je veux dire?
Totalement. Mais tu vois, par exemple.
Je trouve qu'on a vu sur un match comme hier la différence entre faire le match que tu veux faire et faire le match dont nécessite l'équipe. Effectivement.
Exactement.
À Mbappé, il doit aller. Enfin, tu dois pouvoir l'utiliser dans le duel avec Otamendi. Je pense que c'est un joueur sur lequel il faisait déjà d'énormes différences quand il avait 18 ans en 8e de finale de Coupe du Monde, et le fait de l'utiliser uniquement pour faire des différences sur l'arrière droit adverse, encore une fois, quand tu as passé l'arrière droit, il te reste encore du chemin pour faire un but, hein, parce qu'il faut encore réussir le centre, et il faut que le centre trouve preneur ensuite dans la surface.
Tu mets pas Sarabia, le but contre, que tu as mis contre le Real au Parc à chaque
ouais,
match. Quoi,
c'est ça, c'est clair.
Où tu pars d'une position où en fait il n'y a aucun déséquilibre et tu crées un peu le but tout seul, hein, ce qui était un but extraordinaire, le 1-0 du Parc l'année dernière. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, quand Mbappé débordait, il te restait. Alors, Hakimi, pour le coup, était présent dans la surface. Ah, Hakimi, en gros, il avait deux rôles hier. de le match, lui donner deux rôles, de la présence dans la surface pour fermer sur les centres, mais bon, ça n'a pas donné grand-chose. Et quelques isolations, parce que ça construisait tellement à gauche qu'il s'est retrouvé quelquefois en isolation, mais où là, il aurait pu faire parler son explosivité, mais il n'a pas passé ses dribbles. Donc, pour le coup, alors c'est un match différent de celui de Bernat, mais là aussi, c'est décevant. Et je rejoins Mathieu, c'est-à-dire que oui, on a vu Mbappé qui fait des différences, mais après qu'est-ce qu'on fait? Et je trouve que dans ces moments-là, là où il pêche le plus, c'est dans sa lecture, parce que même pour lui, en fait, même si on part d'un point de vue égoïste, parce qu'on disait ce dont a besoin l'équipe, et je te rejoins là-dessus, Mathieu, et même pour lui, même pour toi, c'est-à-dire que égoïstement, bah, si tu vas de l'autre côté, il y a de quoi faire, il y a de quoi emmerder Otamendi, il y a de quoi venir te balader, surtout que Benfica, João Mario, Florentino, Luis, Enzo, venaient bien fermer au maximum la zone là, intermédiaire, couloir intermédiaire gauche du PSG. Alors, ils n'ont pas réussi toujours, mais ils faisaient bien gaffe à faire ça. Bah, tu ne crées pas de diversité. Pour le coup, si tu réclames de la liberté, c'est pour aller, pas pour aller où tu veux, mais c'est pour aller où ça peut être dangereux, en fait. Soit nécessaire pour l'équipe, soit dangereux directement pour toi-même. Et c'est vrai que sur ce plan, je trouve qu'il est... C'est là, moi, où il me surprend, dans le mauvais sens du terme, il me surprend le plus, Mbappé, c'est sur sa mauvaise lecture des situations de match.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allô? D'accord. Non, je pensais que tu allais continuer, Dan. Je suis un peu
surpris. Voilà, il a joué à gauche. Pardon.
Non, mais en fait, d'un côté, tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Ah, Omar, tu veux parler? Oui.
Toi, bien sûr.
Non, mais vas-y. Moi, j'ai rien de... J'ai beaucoup parlé, donc on t'écoute un peu.
Je trouvais que ce que Dan disait est dur parce que j'entends le point sur la surresponsabilisation qu'il veut prendre. Constater qu'hier, enfin, la lecture du match, ça peut pas être hyper individualisé. Ses autres compagnons d'attaque ou du milieu ont un rythme qui, à mon sens, ne correspond pas au standard de Champions League pour pouvoir ne serait-ce que déséquilibrer. Donc, enfin, les joueurs, naturellement, ils vont se approcher de leur position préférentielle. C'était le débat tout au long de la journée et depuis plusieurs jours déjà. Le fait que Mbappé puisse, ça a offert mine de rien le peu de situations positives qu'on a eues. Par contre, on ne peut pas faire fi des autres. Et tous autant qu'ils sont, alors oui, les autres ne sont pas les mêmes, mais le match aussi de Neymar, dans ce cas-là, il y a aussi des gros déficits de lecture. Je pense que c'est sur un match comme hier, il y en avait, à mon sens, qu'un offensivement qui ressemblait à ce que la match face à une équipe du top 10, top 12 de la Ligue des Champions aurait réussi le dernier tiers, tu vois. Les autres, certains insuffisants et probablement définitifs. Enfin non, c'est vraiment un match pourri, pardon.
Non, en fait, Omar, pour continuer le débat, je pense qu'il faut raisonner quelles sont les armes en présence au PSG, côté PSG, pour commencer le match. Tu sais que tu as l'absence de Messi, donc tu veux perdre un gros relais dans le cœur du jeu pour pour assurer ta possession et pour créer des décalages à partir d'une position assez haute. Au fond, tu as Neymar et Mbappé. Comment tu veux les utiliser? Un pour lancer et l'autre pour prendre et attaquer les espaces, pour prendre la profondeur. Le fait est que cette relation, tu l'as vue pas dans un sens vers le but, mais finalement vers un sens qui s'éloignait du but. C'est-à-dire de Neymar qui était plutôt axial, qui a ensuite trouvé Mbappé qui prenait le ballon dans une position plutôt excentrée. Encore une fois, le but est dans l'axe. Tu passais l'arrière-droit du Benfica, très bien, mais la belle affaire. Qu'est-ce que t'en faisais après si dans la surface, tu te retrouvais juste avec Sarabia face aux deux centraux de Benfica qui font un 90. C'est compliqué ensuite de dire que ces situations-là, c'était les meilleures situations pour le PSG de créer du danger. Si Mbappé était plus allé se frotter aux défenseurs centraux, même s'il considère ça comme des basses œuvres, ben peut-être qu'il en aurait tiré, même pour lui, un bénéfice individuel supérieur. Comme tu disais, Dan, je ne sais pas à quel moment dans sa tête Mbappé a décidé, considéré que pour lui, maintenant, il allait passer des arrières droits, dribbler et centrer pour un numéro 9 dans la surface. Je ne pense pas que ça puisse être son ambition. Son ambition, ça peut être de marquer 50 buts dans la saison. Et s'il veut marquer 50 buts dans la saison, il fasse dans les appels dans le sens du but. Donc, je ne crois même pas que le match d'hier le satisfasse tant que ça. Et que ce soit ce qu'il réclame au quotidien, après, match après match.
Ouais, Mathieu,
il y a une différence sur le côté face à l'arrière droit adverse.
Alors déjà, je pense que le fait de pouvoir dribbler, toucher le ballon, accélérer balle au pied, c'est un truc qui lui a fait plaisir. Et surtout, je suis d'accord quand vous dites avec Dan qu'il a probablement un peu manqué dans l'axe. Mais hier, si c'est pas lui qui déborde, on a zéro percussion, quoi. On a personne qui est capable de faire un débordement, de passer un peu Neymar au milieu du terrain, mais après il est à 40 mètres du but, puisqu'il joue relayeur gauche hier pratiquement. Moi c'est un peu ça qui me chagrine, c'est que, je l'ai dit, les deux latéraux ne sont pas en mesure de claquer un débordement. Comment, à partir de ce que tu as sous la main, en fait, limite Mbappé, il aurait dû être à la fois en train de déborder et à la réception. Non, et c'est là où, pour le coup, le match de cadavre de Sarabia nous fait très mal, parce que quand Mbappé débordait, après, Sarabia, normalement, il doit être là pour couper, occuper la surface.
Pour revenir avec la comparaison du PSG de Tourelle, quand tu jouais avec Mbappé dans le duo d'attaque, t'avais Cavani ou surtout Maurito.
Oui, mais bon, là, Maurito était en train de chanter sous le balcon de Wanda, donc on l'a oublié. Et voilà.
Il y a une action à la 20e où Sarabia fait le bon appel, il vient couper premier poteau, il est dans le bon timing, mais c'est le centre que Mbappé rate du gauche, pense qu'il ne le voit même pas, il envoie un ballon en l'air. Mais sinon, ouais, c'est vrai que Sarabia, bon alors bien sûr, hein, Omar, on ne leur applique pas la même grille de lecture, hein, c'est clair. Et Sarabia, pour le coup, ça a été décevant parce que c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de défauts, mais qui est censé être pas mauvais à la finition.
Qui sait,
je me souviens, quand on parle de Tuchel, il disait c'est quoi le meilleur poste de Sarabia, c'est près du but.
Il a le geste juste dans la surface, quoi.
Voilà, et sur ce plan-là. Alors après, voilà, c'est vrai que c'est très dur d'exister sur des centres aériens. À un moment, il y a une fois sur un centre un peu venu de l'arrière enroulé de Mbappé, où il y a Neymar dans la surface et il fait une espèce de miracle, il saute, il contrôle le ballon de la poitrine. Après, il la donne à Sarabia qui fait une frappe manquant de tonus. Mais sinon, sinon, effectivement, t'as... Moi, pourquoi pas de donner ce rôle à Mbappé pourquoi pas. Après, la question, c'est qui vient couper. Même Vitinha, les fois où il s'est projeté, alors il a de l'activité et tout, mais il n'est pas... C'est un milieu alors qu'il se projette en termes de position, il est là, mais il n'existe pas dans la surface.
Non, il passe pas. Et tu vois, c'est marrant, c'est qu'il y a un moment, en deuxième mi-temps, on a une bonne période, il y a un centre trop long second poteau, et là, par contre, Vitinha est là pour un peu... Il manque pas grand-chose, tu vois. Mais ça veut dire que si tu t'appliques un peu plus devant, il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire. Et en ce sens, peut-être aussi, et là on revient un peu à Galtier, même si globalement c'est le thème sous-jacent depuis quand même une demi-heure, je le dis pour ceux qui disent qu'on ne parle pas de Galtier, peut-être que l'entrée d'Ekitiki, elle doit être beaucoup plus tôt aussi. Parce qu'il joue un quart d'heure, et même s'il ne fait pas l'entrée du siècle...
Ouais, mais tu es obligé de prendre en compte ce qu'il a produit jusque-là, son statut...
Je suis d'accord, Dan, je ne te dis pas le contraire.
Non, mais je ne dis pas que...
Je l'ai écrit hier noir sur blanc qu'il doit faire plus quand il joue, donc je ne vais pas te dire qu'il mérite, hein, tu vois. Mais pour moi, il y a un vrai souci, c'est qu'il rentre à la 74e Il y a peut-être qu'il doit rentrer à la 65e, par exemple, quoi. Juste après le but, pour moi, bam, tu dois faire le changement direct en mode bon, allez, on doit gagner le but, on doit gagner le match, il y a une qualif à aller chercher, on va mettre peut-être un peu du poids devant quand même. Et ou peut-être changer quelque chose, changer une animation, parce que en une heure, tu as produit une occasion et demie, tu as une demi-heure pour gagner, pour valider ta qualif. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, le nul te met bien aussi, t'élimine pratiquement la Juve. Mais ça fait un peu petit bras et je sais pas à quel point c'est... Enfin, c'est plus facile à dire maintenant après que pendant. Mais je trouve que, pour venir sur un point plus global, pour élargir un peu, le coaching tardif de Galtier en Ligue des Champions se fait franchement sentir. On en avait parlé après PSG-Juve où lui-même il s'était auto-flagellé. Là, on en reparle un peu parce que... Enfin, moi, je trouve qu'il aurait pu le faire plus tôt.
Oui, on l'évoque comme un fil rouge, ça, voilà. Sa lecture des matchs pour l'instant. Alors, bon, c'est facile à dire depuis notre... depuis les gradins ou depuis notre canapé. Hein. Je dis ça vraiment...
Siège de bureau,
avec
monsieur.
De mesure.
Nous travaillons pendant les matchs. Toi comme moi, mais... nous sommes ceux qui travaillons pendant les matchs. Hein.
Ouais, nous avons le privilège de travailler sur les matchs. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, pour l'instant... Alors, c'est pas étonnant, vu son passé. On peut complètement se dire aussi qu'il est en progression, forcément, parce qu'il évolue là à des hauteurs qu'il avait pas connues, ou du moins pas avec ce type d'équipe. Pour l'instant, c'est sûr que dans sa lecture des matchs, au-delà du changement, parce que bon, on sait que quand un match va pas bien, les supporters ont souvent tendance
à dire qu'il
faut changer quelque chose. Faut changer quoi? Bah, je sais pas, tu changes, tu vois. Mais malgré tout, depuis le début de saison, on peut pas dire que c'est un coach, que ce soit un coach qui est pour l'instant agi beaucoup sur le cours des rencontres.
Non, mais tu vois, par exemple, je me souviens après le match à Reims, il y avait un débat. Ouais, pourquoi il a pas fait rentrer Kitike? Moi, ça me choque pas du tout qu'il fasse pas rentrer Kitike à Reims parce que j'estime que c'est pas du tout ce dont on avait besoin. Hier. Tu le fais pas rentrer alors que t'es à domicile, que t'as besoin de marquer, que tu manques de présence dans la surface, c'est quand même un gamin qui a des défauts, mais qui en théorie est pas censé être trop mauvais face au but, et tu vois que Sarabia est pas dans un bon jour. Donc bon, je sais pas, je m'interroge un peu sur la capacité de notre entraîneur à réagir peut-être un peu plus vite que ça, quoi. Après, tiens, question qu'on nous pose effectivement qui nous concerne, qu'est-ce qu'il a marqué dans notre fameux carnet? Bah, je crois que c'est Canal ou RMC qui l'a dit, qu'il avait noté prof droite, genre attaquer la profondeur à droite. Et
il y a Kylian prof droite, il a écrit.
Voilà, mais peut-être. Mais, ouais,
Ah, il avait ciblé Otamendi du coup.
Bah oui, et oui.
Ça n'a pas été fait une fois, donc c'est comme quoi.
Oui, après, tu sais où. Ouais, enfin, peut-être que c'est ça ou justement qui, je sais pas. Mathieu, je sais pas.
Mais après, c'est clair que dans la gestion de l'effectif, c'est une période compliquée parce qu'il avait beaucoup privilégié jusque-là l'assise d'un même 11 et d'un même système. Là, on entre dans une période qui est assez critique parce que tu regardes comment l'effectif à jour, enfin à date, disponible et constitué. On voit qu'on a nos 5 milieux centraux qui vont être disponibles ce week-end avec le retour de Renato Sanchez. Et en même temps, tu vas avoir 5 défenseurs pour les 5 postes. Donc, est-ce que ça vaut le coup de continuer avec 5 défenseurs et 2 milieux de terrain quand tu as le même nombre de joueurs disponibles sur les deux secteurs? C'est compliqué parce que, ok, tu peux dire, j'aligne tous mes défenseurs d'un coup, je mets Mukiele pour Ramos et voilà, ils sont tous sur le terrain. Et ça veut dire que tu laisses 3 milieux de terrain en dehors du 11. Et donc, forcément, tu gardes ces 3 milieux de terrain, Renato, Fabian et Soler, encore plus loin de l'intégration à une dynamique d'équipe.
Et surtout,
tu les gardes encore plus loin comme option pour entrer en cours de jeu,
c'est ça.
Pour faire souffler un titulaire. Et donc, voilà, tu retardes encore plus la possibilité de les intégrer à l'équipe et surtout de les faire rentrer dans la durée d'un match. Quoi. Tu te dis, un joueur qui n'est pas intégré dans une dynamique d'équipe, tu ne le fais pas rentrer à la 60e ou à la 55e. Tu le fais rentrer un peu à 75, 80e parce que tu n'es pas sûr, il n'a pas trop montré sur les derniers matchs, etc. Même physiquement, il a peut-être pas une possibilité de mettre du punch, etc. Donc à voir comment il s'en sort, mais peut-être que le fait d'être assez figé dans un système, si ça s'entendait depuis le début de saison, peut-être que là ça risque de devenir assez critique vu le nombre de joueurs disponibles dans les différents secteurs.
On nous dit Galtier est pied et poing lié, il accepte tout, c'est tellement inouï ce poste pour lui. Non, il accepte pas tout, attendez, il a quand même fait des choix, Il a quand même fait des choix de technicien depuis le début de la saison. Il n'a pas tout accepté non plus. Hein. Et pourtant, on lui dit, j'étais surpris de ne pas le voir jouer en 3-5-2 alors que Ruiz était pas mal et Sarabia vont pas en faire. Mais hier, on joue en 3-5-2. C'est juste que dans les 3 du milieu, il y a Neymar. C'est ça la différence. Mais hier, le PSG est dans un 3-5-2. Alors certes, avec une pointe Mbappé qui est beaucoup sur le côté et une autre pointe Sarabia qui l'est tout autant et qui est pratiquement entre les lignes, mais qu'on n'arrive pas à trouver. Mais hier, le PSG est plus en 3-5-2 qu'en 3-4-3. Hein. Vraiment. Enfin, vous regardez un moment, je crois qu'il y a un plan haut de loin de Canal ou de. Je ne sais plus qui réalisait, peu importe, mais on voit très bien le 3-5-2 et que Verratti, le milieu le plus bas, Vitinha, axe droit, et Neymar, relayeur gauche, légèrement plus haut que Vitinha. Et d'ailleurs, je pense que Vitinha a eu beaucoup de mal à se positionner par rapport à ce changement de système, puisque ça lui a bousculé tous ses repères. Il a joué à moitié comme un joueur de double pivot, mais ça ne collait pas. Enfin, il y avait, je trouve, beaucoup de réajustements à faire en cours de rencontre qui n'ont pas forcément été super, super bien faits. Bah tiens, Dan, bon, je peux pas vous le diffuser. Ah, quoi que, c'est quoi, Dan? Attends, je vais vous la diffuser sur live, les points de comment ça s'appelle, de où jouent les joueurs, où étaient les joueurs hier soir. Laissez-moi quelques secondes. Voilà, celle-là. Allez, attendez, je vais vous la réduire un peu parce qu'elle sort du cadre. Je suis désolé, ceux qui écoutent en replay, vous aurez... Hop, voilà. Et où on voit bien, en fait, Verratti, donc le PSG est en gris, on voit Verratti... Dan, si tu veux commenter, vas-y. Hein. C'est tes positions moyennes, si tu veux.
Non, c'est les positions moyennes d'Opta. En fait, c'est lié au ballon touché. Hein. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Il faut toujours prendre ça avec des pincettes, notamment quand vous voyez... quelqu'un dans l'axe, tu peux avoir touché une balle à l'extrême gauche du terrain, une balle à l'extrême droite, tu vas te retrouver ta position moyenne dans l'axe, c'est le baril centre en fait de tes ballons touchés. Donc il faut quand même faire gaffe. Et là on voit en gros les trois défenseurs, parce que même si Marquinhos était haut, en fait il a peu touché le ballon dans des zones très hautes. Puis Verratti un peu sur la partie gauche du terrain, avec devant lui Neymar et encore devant lui Mbappé, et à la même hauteur que Mbappé de l'autre côté, Sarabia, qui a touché très peu de ballons, et donc souvent dans une zone sur la partie droite du terrain où il est assez isolé. Ce qui est le plus frappant aussi, là, c'est la position assez basse des pistons. Mais bon, ça rejoint ce qu'on a déjà dit tout à l'heure.
Voilà. Non, mais c'était pour illustrer comme ça... Bon, je vais me prendre un mail d'Opta me demandant 500 balles, mais c'est pas grave, on fera un litchi. Mais pour illustrer un peu ce qu'on disait sur le fait que le PSG jouait hier plus dans un 3-5-2 que dans un 3-4-3, parce que bah, vous voyez, voilà. On dit Neymar n'est pas un relayeur gauche, mais au match aller, on joue exactement de la même façon, hein, je vous signale. Et c'est parce que Galtier l'a expliqué, il disait on a besoin, regardez le nombre de joueurs que met Benfica dans l'axe. Là, sur le graphique, vous avez donc le 88, c'est Gonzalo Ramos, le 27, c'est Rafa Silva, le 8, c'est Horst Neß, qui est le milieu gauche de Benfica, joue carrément. J'ai un milieu axial en fait. Le 13, c'est Enzo Fernandez, 61, c'est Florentino Luis. Il joue avec 5 joueurs dans un carré axial. On ne peut pas laisser que 2 joueurs, donc forcément, tu es obligé de redescendre un milieu ou changer carrément de système. Et puisqu'on l'a gardé, bah, tant pis, c'était comme ça. Il y a vraiment beaucoup de monde dans l'axe. Et c'est pour ça, je trouve, sur un match comme hier, où tu as deux pistons qui font une rencontre franchement pas terrible. Bah, tu te retrouves vite en difficulté. Quoi. On nous dit à qui t'as joué en 3-5-2, j'aurais préféré un vrai relayeur et Neymar plus haut à la place de Sarabia. C'est un peu ce qu'on l'avait évoqué dans l'avant-match, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'était pas justement le bon match pour inclure Ruiz dans ce 11 de départ et mettre Neymar un peu plus haut? Peut-être, mais il ne faut pas oublier que Neymar, axe droit, c'est pas non plus son meilleur poste. C'est un joueur, Neymar, qui historiquement a fait toute sa carrière sur le. Elle a commencé vraiment à longer la ligne et aujourd'hui est un joueur gauche, axe gauche. Mais qui aujourd'hui, enfin on l'a vu en début de saison, au match amical, axe droit, c'est pas son poste, il a pas ses repères, il sait pas vraiment y jouer, il va se retrouver sur des frappes du pied qui correspondent pas à ce qu'il sait faire. C'est quand même un joueur qui utilise pas mal l'intérieur, le coup de pied, côté droit, il va se retrouver à faire beaucoup d'extérieur, où bon, il en est largement capable parce qu'il a des facultés techniques exceptionnelles, mais c'est beaucoup plus compliqué pour lui. C'est le maître. C'est pas le... Pour le coup, depuis le début, on trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué un poste très intéressant ou les utilisant au mieux. Mettre Neymar axe droit, c'est pas bien l'utiliser non plus. Et je pense qu'il est plus à l'aise en relayeur gauche qu'en attaquant droit, par exemple. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que, messieurs, on a fini là sur un peu l'analyse collective? Vous voulez rajouter quelque chose? Je vais changer l'image de fond pour revenir à nos... Oui.
J'ai un seul point. Et les corners sortants de Pablo Sarabia.
Et j'allais en parler.
Il faut en parler.
Écoute, déjà... Pablo, tes corners, soit tu les fais rentrant, soit c'est toi qu'on sort. On va pas y aller par quatre chemins. Voilà.
Déjà, Neymar perd des pénalties pour Mbappé, c'est quelque chose. Alors qu'ils perdent en plus les corners pour Sarabia, ça me semble un peu exagéré comme déclassement dans l'équipe. Et effectivement, je sais plus si c'était dans l'après-podcast de lundi ou celui de la semaine dernière où on avait bien rigolé quand on repensait à la façon dont Sarabia tirait les corners et dans la façon plus globalement dont on n'était pas du tout dangereux sur ces phases-là. C'est vrai que ça fait un peu déprimer de se dire que tu fais monter Danilo, Ramos et Marquinhos. À la fin du match, ils n'ont pas pris un ballon dans les airs sur corner. Quoi.
Sur les deux matchs. Hein.
Ouais, sur les deux matchs.
Même sur les trois matchs. Sur les trois matchs de la semaine. Non, mais les trois matchs de la semaine.
Un an et demi, le but de Marquinhos face à City, hein, je pense, on a été pris à corner.
Non, mais je ne sais pas si on se rend compte. On a fait tirer tous les corners à Sarabia ou presque depuis, je sais pas, une semaine et quelques. Enfin, il est rentré en fin de match à Lisbonne. On a fait monter Ramos, Marquinhos, Danilo à tous les corners. Donc trois mecs qui, de la tête, pèsent. Hein. Je crois qu'on n'a pas pris un corner, pour vous donner une idée. Si, en fin de match, contre Benfica, là, il y a Neymar qui en tire un, bizarrement, Ramos le reprend, quoi. Bon. Alors, pourquoi Sarabia les tire? C'est probablement une consigne du staff, mais il est gentil à vouloir les tirer sortant. Alors, certes, Benfica a de la taille.
Qu'est-ce qui vous embête sur le fait que ce soit sortant
Le fait qu'on n'en prenne pas un,
quoi. Qu'il soit mal frappé.
Ah oui, c'est qu'il soit mal frappé ou qu'il soit sortant?
Ah, les deux.
Non, c'est juste qu'il les a tous tirés sortants et qu'ils étaient tous tirés très très sortants.
Ah oui, d'accord.
Même de la surface de réparation.
Non, mais je croyais que c'est le principe du corner sortant qui vous pose des problèmes. D'accord.
Non, c'est un corner sortant pour la tête de Thiago Silva.
Comme si le ballon était voilé, c'est ça qui nous gêne.
Non, franchement, ils sont... Non, mais les corners du PSG, il faut le dire, ils sont effroyablement mal tirés la plupart du temps, quand même. Tu te rends compte que t'as Messi, Neymar en frappeur, que t'as Ramos à la réception, ou même Marquinhos, qui doit être dans le top 10 des défenseurs qui ont le plus marqué en Ligue des Champions, que tu n'en fous jamais un, quand même. Et t'as deux tireurs all-time, ou presque, deux récepteurs de ballon. Enfin, un notamment Ramos qui est plus que all-time, qui est ouais, voilà. Et tu n'en mets jamais un, quoi. ça n'a pas de sens. C'est...
La Juve avait marqué d'ailleurs sur corner contre Benfica et ils en ont pris deux des buts sur corner cette saison Benfica. Donc c'est pas non plus une équipe qui règne en plus sur cette phase de jeu. C'est vrai que c'est dommage quand tu vois les potentiels joueurs aériens. Qu'il y a dans l'équipe d'être si peu dangereux, mais c'est quand même pas c'est pas une première, hein. Ça fait depuis le début de saison, je trouve qu'on est assez peu dangereux, enfin le PSG est assez peu dangereux sur les coups de pied arrêtés.
Ouais, non, mais c'est oui, je suis d'accord.
Kylian va pas tarder à les réclamer aussi, hein, comme en équipe de France.
Après,
si c'est Pablo Sarabia qui les frappe, pourquoi pas.
Non, mais tiens, on nous dit comment fait Carlo Ancelotti pour avoir toujours des équipes qui marquent de la tête. Ah bah, il y a un vrai travail de fond sur coup de pied arrêté, Carlo Ancelotti. Alors là, je pense qu'on... Enfin, si vous avez vu un peu des reportages sur lui, vous verrez qu'il y a un gros, gros travail d'effectuer à ce niveau-là. Hein. Mais c'est pas étonnant. Après, c'était Tourelle qui expliquait que de lui-même, ça l'intéressait. Enfin, lui, il détestait travailler ça, et donc il demandait à ses adjoints de le faire, et de prendre du temps pour le faire, parce que c'est un truc qui l'intéressait pas et qu'il avait même tendance à oublier, quoi.
Après, ils n'ont sans doute pas beaucoup de temps pour les préparer. Mais après, tu as beaucoup de travail de vidéo, hein, sur les coups de pied arrêtés. Tu peux quand même faire passer des idées ou même des combinaisons ou quoi que ce soit sur des images arrêtées. Donc.
Totalement. Ouais. Et même.
Grosse phase de progression aussi, parce que c'est des buts faciles. Danilo, Marquinhos, Ramos, tu peux atteindre 12 buts, hein, sur la saison entre les trois.
Hein. Ouais. Facile, ouais. Franchement, pour moi, on devrait mettre. Vu les tireurs que tu as. Je répète, t'as Messi et Neymar. Les mecs, ils mettent le ballon où ils veulent. Surtout Messi, qui a une capacité à vraiment les mettre. Enfin, il a un pied magique, il faut quand même en être bien conscient. Tu devrais être à 15 buts sur corner, ou peut-être pas sur corner, mais coup de pied arrêté, vraiment facile, quoi. Et d'ailleurs, on en a mis en cette saison de coup franc excentré à Clermont. Neymar, il met un super ballon à Marquinhos. Marquinhos. Voilà.
Mais c'est un coup franc, c'était pas un corner.
C'était un coup franc.
Pour les corners, il faut rappeler Henrel.
Ouais, bah c'est pas avec le Henrel de cette
saison. Il va lever la jambe et il a pas trop mal aux ischios.
Le pauvre Henrel, je crois qu'avec un corner, il se prend un mois d'arrêt encore. Donc bon, voilà, c'est tout. On nous dit, oui, on en a mis qu'un seul cette saison. Il y a un corner repoussé de Ramos aussi au Trophée des Champions. C'est un double corner, si je me trompe pas. Ou il y a quelque chose comme ça aussi qui traîne. Mais bon, c'est comme ça. On nous dit, avec Emery, c'était du sérieux. Ah bah, le dénommé Carcedo, pardon, était connu pour sa rigueur, ses combinaisons. Le mec, il mettait du futsal pour prendre des inspirations. De quoi, ça plaisait pas beaucoup à Ten Ben Arfa de travailler les coups de pied arrêtés, mais oui, l'adjoint d'Unai Emery aux coups de pied arrêtés est une référence européenne même. Malheureusement, il n'est plus là. Sur l'aspect collectif, Dan, Mathieu, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, personne ne prend la parole, on va donc avancer. Merci à Ghostix pour le subs. 4 mois d'abonnement, bravo à toi, ça fait un tiers de l'année déjà. Eh oui, ça passe vite. Au PSG, ça passe très vite, même si on enchaîne les galères, ça passe vite l'année au PSG. On va donc attaquer les perfs individuels. Alors, on va éviter de parler de Donnarumma, vu que le pauvre a strictement rien eu à faire. Est-ce que vous voulez parler du match de... On a beaucoup parlé du match de Marquinhos, forcément. Petit mot sur Ramos ou Danilo, ou pas? Je ne sais pas s'il y en a un de vous... Oui, Omar, vas-y.
Match de Sergio Ramos.
Ah.
Je pense est le meilleur des trois joueurs défensifs. Qui a eu un match beaucoup plus rassurant que sa partie de ce week-end. Qui a plein d'initiatives, tant de corrections, et que j'ai trouvé assez net et définitif dans ses interventions. Donc j'ai vraiment fait un match de très très bonne facture, et d'ailleurs on pourrait englober aussi Danilo, qui a eu un match avec beaucoup de sérieux dans ses interventions également, à propos également. Donc voilà, pour terminer sur Ramos, j'ai vraiment trouvé qu'il avait fait un très très bon match, et pas long le meilleur parisien sur la pelouse à mon sens.
D'accord. On nous dit demain sur le penalty, bon, il n'y a rien pu faire. Il se prend une fin. Le penalty, c'est un truc très bon particulier. Bon. Mathieu ou Dan, sur le match de Ramos, moi je rejoins Omar. Autant l'aller, il avait été très inquiétant, autant le retour montre qu'il y a encore de la moelle dans ce jeune. Peut-être est-ce l'odeur européenne qui le régénère, mais c'est bien. On nous dit sur live que Danilo était le meilleur parisien. Je ne sais pas si. Ou si vous êtes d'accord, je sais pas, Dan ou Mathieu, sur les joueurs défensifs, là, globalement, le fait que Benfica ait absolument aucune occasion franche, alors que c'est une équipe qui, quand même, est capable de générer des occasions, est plutôt rassurant, en dit long même sur la qualité des matchs, au moins défensifs, des trois joueurs de derrière, je pense. Donc, félicitons ces jeunes. Dan et Mathieu n'ont rien à dire. On va passer au milieu de terrain. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le match de Verratti, son erreur ou peut-être un peu ses difficultés, ou vous voulez parler du match de Vitinha peut-être? J'avoue que oui, Dan.
Oh non, bah sur Verratti, on va dire que son penalty, c'est peut-être lié à sa manière de défendre, quoi. Je trouve quand est-ce qu'il en a concédé dernièrement, mais j'ai pas un souvenir récent de Verratti concédant un penalty. Mais on sent qu'en fait, j'ai l'impression qu'il glisse en voulant aller au sol. Voilà, c'est un joueur qui aime beaucoup aller au sol. Après, sur le reste de son match, je trouve que c'est difficile de l'incriminer juste pour le penalty, parce que sur le reste de son match, c'est encore un joueur qui est au-dessus du lot, qui a une activité extraordinaire, qui a la capacité d'absorber le pressing, de trouver des petits ballons piqués sur 5-10 mètres juste dans le dos des milieux défenses adverses. Bon, il y a encore la palette. La palette de Verratti qu'on a l'habitude de voir, voilà. Moi, je l'ai dit, j'aurais peut-être aimé le voir pas le voir parfois échanger sa place avec Marquinhos, c'est-à-dire reprendre une place plus haute pendant que Marquinhos décrochait. Mais bon, c'était encore un régal de le voir malgré tout. Alors, il fait pas le même match qu'à l'aller où il avait été vraiment excellent. Mais au milieu de la tristesse ambiante, ça reste quand même l'un des joueurs qui te fait passer quelques frissons pendant ton match, et ça fait toujours du bien, encore plus dans des matchs de ce genre-là. Après voilà, il concède le péno, c'est vraiment très évitable, hein, c'est l'évidence même. Je pense que voilà, je le dis, c'est lié à mon avis à sa volonté d'aller souvent au sol. Ah, c'est la nature du joueur, je suis pas sûr qu'on puisse changer ça désormais. En revanche, essayer d'éviter de faire ce genre de faute dans des situations où il n'y a pas un danger énorme et dans une position dans la surface, voilà, tu es assez éloigné du but. Ça, c'est sûr que sur ce point-là, bon, je pense que c'est le premier à s'en vouloir.
Oui, bien sûr. Et puis surtout, comme tu dis, un pénalty en 10 ans, parce que je crois qu'il en avait déjà concédé en Ligue 1. Je me demande si c'était pas sur des mains. J'ai pas le souvenir d'une faute comme ça. S'il y en a un sur le live qui s'en rappelle, moi j'avoue que je sais qu'en Ligue des Champions, c'est le premier pénalty qu'il concède. Alors, il y a des fois où il n'est pas passé loin, mais Mathieu, tu te rappelles, ou Omar, toi, d'un pénalty en Ligue 1 concédé par Verratti ou pas? J'avoue que moi, j'ai cherché un peu là de tête. J'ai rien.
J'ai des buts contre son camp de Verratti en tête.
Ouais, pareil.
Face à Arsenal notamment. Mais pénalty concédé, non, je ne sais pas trop.
Bon. Donc ça va pour la façon de défendre. Moi, Dan, en revanche, je suis un peu moins positif que toi sur son match. Je trouve qu'il a dans la capacité à amener le ballon devant aux avant-centres et aux attaquants en général, je l'ai vraiment trouvé un cran en dessous de ce qu'il peut faire. Alors Benfica l'a très bien géré. Il quadrillait très très bien les lignes de passe, il coupait bien les choses. On voit à quel point Neymar a dû faire des exploits pour prendre le ballon, pour l'amener devant, mais je trouve que Verratti a déjà eu des matchs où il était plus inspiré, on va dire. Donc, bon. Je ne sais pas, Mathieu, si tu es comme moi un peu plus réservé ou si tu trouves que les pauvres Parisiens, enfin le pauvre Verratti a fait ce qu'il a pu dans un marasme collectif.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Non, je vais couper la poire en deux si vous voulez, mais...
Bon, avançons voilà. Alors, avançons. Non, mais comme on fait très tardif, on va avancer un peu. Je pense aussi à votre sommeil. Est-ce que tu as un mot à me dire sur Vitinha? Moi, il y a une remarque qui m'a fait un peu réfléchir sur lui. Est-ce qu'il n'est pas un peu en train de payer physiquement son début de saison où il a couru énormément pour les autres? Je ne sais plus qui faisait cette remarque aujourd'hui, comme quoi il l'avait trouvé un peu dans le dur physiquement, moins disponible, moins mobile, plus... Comment dirais-je?
Je ne sais pas, parce qu'en deuxième période, si tu regardes, avec le match un peu avancé, c'est là aussi où il a fait des récup dans les pieds et quelques bonnes prises de balles aussi pour des contrôles orientés. Donc, c'est peut-être pas son meilleur match depuis qu'il est à Paris, mais je ne trouve pas non plus que ce soit son pire. Donc,
Je ne sais pas.
Je sais pas si c'est sa responsabilité à lui que la machine a été grippée. C'est aussi un match où t'avais pas Messi, donc aussi des routines du début de saison ne pouvaient pas être renouvelées. Je sais pas. Au final, je trouve que c'est un match neutre de Vitinha. Je saurais pas s'il faut vraiment aller dans le négatif que ça. Je sais pas. Après, vous êtes peut-être une autre.
Non, mais je suis pas. Tu vois, en fait, s'il y a un truc qui me fait un peu tiquer sur son match, tu as raison, effectivement, sur la deuxième mi-temps où il revient très bien, c'est comme l'a dit Omar, c'est la première où il disparaît complètement, en fait. Et il fait un très bon début de rencontre, notamment il casse les lignes et tout. Et c'est là où il fait beaucoup de bien à son équipe d'ailleurs, où il porte le ballon, il le fait avancer.
Il jouait à gauche, hein, c'est.
Oui, voilà. Mais justement, enfin, s'il a le poids qu'il a été en mesure d'avoir ces dernières semaines ou ces derniers mois, peut-être que lui, il peut rééquilibrer un peu le jeu, quoi. Et tu vois, par exemple, quand je trouve que Hakimi est trop isolé sur l'aile, est-ce que c'est que Vitinha est pas trop loin de lui aussi, tu vois?
Donc, si tu regardes comment PSG est en possession, souvent Vitinha il se déplace, ouais, et il va essayer de se rapprocher du côté où il y a le ballon, et Hakimi est complètement isolé, hein. Quand le ballon lui arrive, soit il y va tout seul, soit il revient en retrait sur Ramos. En général, il n'a pas beaucoup d'autres choix.
Bon, d'accord. Je ne sais pas, Omar ou Dan, si vous voulez compléter. J'avoue que je m'inquiète un peu si le deuxième milieu de terrain est infatigable, commence à fatiguer. Donc, bon. Aucun des deux ne souhaite en prendre la parole. On va continuer d'avancer dans la ligne. Est-ce que vous voulez parler des deux pistons, même si on en a déjà, enfin moi surtout j'en ai beaucoup parlé. Je sais pas, Dan ou Omar, sur le rôle des latéraux hier, justement, vous en pensez quoi, problème du moment, limite? Oui, Omar, vas-y.
Je trouve bien trop surresponsabilisé, à vrai dire, tant avec ballon dans le temps sacré, sur les espaces à couvrir. Les deux sont un peu corrélés, mais là je trouve que c'est trop grande proportion. Si tu mets ça par rapport à leurs états de forme et leur capacité à faire des différences, avant de parler de Bernat, il faudrait parler d'Hakimi.
Rapproche-toi du micro, on t'entend très très mal, Omar, en revanche.
Mon casque est en train de mourir, en fait.
Ah.
Désolé.
Bon, faisons comme ça, tant pis.
C'est mieux ?
Non, ça change rien.
Voilà, sûr. Donc, je disais que Hakimi, qui est dans une passe un peu compliquée, lui, on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire d'effort. Je trouve qu'il en fait énormément, mais il est dans. Enfin, il n'a pas de bonnes inspirations en réalité. Pas de différence individuelle. Et pour un joueur qui a autant de flair dans la surface, qui a tout au long de sa carrière toujours fait les bons choix, là on lui peut plus emprunter parce que bah, il fait des actions sur 50-60 mètres où il a vraiment personne pour combiner et c'est des rushs. C'est assez difficile à l'été de. Ah, non, c'est clair, mais je trouve que même son match est tellement compliqué parce que les choses qui lui sont demandées sont peut-être pas claires ou en tout cas pas apparaissent pas de façon pour se dire bon ben voilà les voies qui sont faits pour qu'il mette face au jeu, pour qu'il puisse retrouver des relais à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment côté droit, vraiment le no man's land, quoi, pour le moment, et c'est compliqué d'être une équipe équilibrée quand t'as autant de suppositions de joueurs côté gauche qui sont en plus les plus créatifs et rien côté droit, tant en termes de ballon et de proposition. Donc ça n'aide pas Hakimi à être ce qu'il est. En théorie, c'est un joueur qui dans cette position est capable de grandes différences et qui devrait être déjà 5 ou 6 actions beaucoup plus décisives que celle-ci.
Ouais. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Je m'excuse pour vos oreilles. J'ai géré comme j'ai pu avec le son. Ça fait partie du podcast et du beat autour. Mais ouais, comme tu dis, il est tellement isolé que. Enfin, moi, je sais qu'hier, je l'avais trouvé vraiment pas bon. Et quand tu regardes la structure collective générale, à part si t'es Nuno, en gros. Donc, un joueur capable d'être autosuffisant ou ce genre de latéral très très rare. On lui demande des trucs impossibles, enfin des trucs qu'il sait pas faire. Alors il pourrait faire mieux, je pense, notamment quand il prend la balle, il essaye plus jamais d'accélérer et arrêter alors qu'il a une super pointe de vitesse. C'est quelque chose qu'il faisait beaucoup au début, si vous vous rappelez. Revoyez le premier match de Hakimi au Parc des Princes et PSG Strasbourg, il prend le ballon, il pousse, il accélère, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il fait plus du tout alors que techniquement il pourrait le faire. Et je pense qu'il a largement le coffre, les jambes, il a tout, hein. On parle d'un joueur de 24 ans, hein. Mais c'est vrai que comment dirais-je, l'isolement qui, dont il souffre sur le terrain, c'est terrible. Après, moi, ça ne me choque pas que le jeu soit beaucoup à gauche si au bout d'un moment, on apprend à basculer et à le trouver lancé. Et c'est ce que fait Neymar, par exemple, à un moment. Sur l'occasion de Mbappé, puisqu'il n'y en a qu'une, c'est exactement ce que réussit Neymar. Et là, Hakimi retrouve d'un coup une utilité. C'est ça qui est terrible. C'est que, à mon sens, il y a un peu des deux. Il y a le manque de structure collective et il y a un peu le joueur qui ne force pas assez sa nature et qui, quelque part, se contente ou se complaît, mais en tout cas n'arrive pas à provoquer assez de choses pour faire basculer les choses en sa faveur. Quoi. Je ne pense pas que ce soit qu'une question de confiance. Hein. Il y a eu des fois, même au cours d'un même match, il y a des phases où il est très bien et des phases où il n'arrive pas à provoquer des choses, quoi, tout simplement. On dit il faut juste lui donner le ballon lancé, mais c'est compliqué de trouver un latéral lancé. C'est même très très compliqué, ça nécessite des mécanismes de jeu huilés que le PSG n'a pas. Hein.
Donc, et même une fois, c'est en début de deuxième mi-temps, où il essaye de faire l'action dont tu parles, Philo.
Ouais.
Mais il passe pas son crochet et il passe un dribble sur cinq là sur le match et les trois qui tentent dans la moitié adverse il les passe pas. C'est vrai que c'est dommage, voilà, je vous rejoins. Il pourrait bénéficier paradoxalement de la construction côté gauche pour être à la fois plus tranchant dans la surface et profiter des espaces qui s'ouvriraient et qui s'ouvrent à droite, puisque le pari emmène tout l'adversaire de l'autre côté. Bon, il n'y a plus qu'à se dire qu'il sera en meilleure forme en deuxième partie de saison et que là, l'hiver arrive et qu'en général, ça lui convient peu. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant de le voir comme ça. Alors, même si ce n'est pas son utilisation idéale, je trouve que il n'est pas non plus dans un registre complètement contre nature, et pourtant il donne vraiment pas sa pleine mesure.
Tiens, question très intéressante sur live, merci de la poser. Est-ce que vous pensez qu'à gauche il pourrait être un peu mieux? Je sais pas, tiens Danou Mathieu, ce que vous en pensez. On l'a vu à la fin de rencontre, il est passé à gauche. Hein. Moukiele est rentré. Chut. Changement de côté de Hakimi. Je sais pas, Dan ou Mathieu, ce que vous en pensez, est-ce que pour relancer Hakimi, ce serait pas bien de le mettre justement du côté rempli, j'ai envie de dire.
Et du coup, Moukiele... Bon, alors déjà, contre l'OM, Ramos n'est pas là, donc si tu veux jouer à 5, c'est pas possible. Mais du coup, tu mets Moukiele à droite, ouais. Et Hakimi à gauche, mais après, le risque quand même, c'est d'avoir un joueur qui vient aussi... avec son pied droit qui vient vers l'intérieur et qui va marcher sur des zones qui sont déjà assez occupées par Neymar, par Mbappé quand il se déporte ici. Je sais pas, après c'est de la spéculation, mais quelle serait l'idée derrière ça?
Bah, l'idée c'est de mettre pas à gauche
juste pour changer.
Je pense, enfin je rigole, mais l'idée, c'est qu'actuellement, vu que Bernat a du mal à animer le couloir, voilà, on dit il va pas prendre la place de Mendes, de Nuno, évidemment. Mais aujourd'hui, tu n'as pas Nuno. Donc, et il a beaucoup joué à gauche. Hein. À Dortmund, il a fait pratiquement, au total, sur les deux saisons qu'il a fait là-bas, il a dû faire pratiquement la moitié à gauche. Donc, c'est vraiment un poste. En sélection aussi, il y a joué. Donc, il connaît. Hein. Mais même, je me souviens de certains. Je crois que même à l'Inter, il a dû y jouer quelques matchs pour dépanner à certains moments. Donc c'est pas une qui est lui pour il sait jouer des deux côtés, mais c'est vrai qu'est-ce que on me dit, est-ce que c'est pas vu à quel point il est peu en confiance, est-ce que c'est une bonne idée de le placer sur un jeu peut-être un peu contre-intuitif? Je sais pas, moi je serais pas surpris qu'on le voit sur un match ou deux, à voir ce que ça peut donner, mais globalement il y a un problème d'utilisation du joueur et peut-être aussi un peu un problème de confiance, un problème de, il y a pas mal de soucis. Est-ce que lui actuellement aussi il est en mesure d'assumer là, ce qu'on lui demande sur un rôle de piston? Est-ce que ça serait pas mieux aussi pour lui de passer à 4 derrière finalement, quitte à moins monter, et vu qu'il passe son temps à courir dans le vide le pauvre, comme ça il monte un peu moins et il est servi quoi.
Oui, après vu comme il est en difficulté parfois sur le plan défensif, c'est on l'a vu sur des récents matchs plusieurs fois, c'est quand même un joueur qui est un peu trop... Je trouve que pour un défenseur, il est un peu trop optimiste, pour reprendre l'allusion sur les défenseurs pessimistes d'Ancelotti, je crois, et la nécessité pour un défenseur d'être pessimiste. Lui, il est un peu trop optimiste, il réagit souvent un peu en retard. Je ne sais pas si ça changerait grand-chose de passer à 4 pour lui, si ce serait un renouveau absolu. Bon, en revanche, pour Bernat, c'est sûr qu'il serait moins mal à l'aise dans une défense à 4.
Ouais, on nous dit c'est de la faute de Galtier qui ne fait pas jouer les gars sur qualité. Après, je ne veux pas être méchant, mais c'est le même joueur qui était excellent au mois d'août dans le même système. Donc, ce n'est pas forcément que de la faute de Galtier. Il y a aussi une question de remise en question du joueur qu'il doit avoir et tout ça. Mais je sais que l'an dernier, quand ça allait au plus mal pour lui, quand on jouait à 4 derrière, Vaïd, qui était à l'époque son sélectionneur, avait dit « Mais peut-être que ce qu'il propose, ce n'est pas ce dont l'équipe a besoin. Peut-être qu'il doit proposer des appels vers l'intérieur plutôt que de longer la ligne comme ça, attendre que le ballon arrive. » Est-ce que Hakimi va pas devoir aussi faire un peu ce genre de choses ? Lui aussi attaquer, plutôt que d'attendre que le ballon arrive côté droit où il arrivera jamais, peut-être qu'il doit justement être moins travaillé sur la largeur, faire un peu ce que faisait Dani Alves des fois, qui rentrait carrément en plein axe, quoi. Je sais pas. Pour moi, il y a beaucoup de choses à revoir, et on a vu que, enfin, Galtier l'a dit dans ses déclarations, je crois que c'était après le match aller, qu'il travaillait justement sur le fait que la largeur n'est pas très, très bien utilisée au PSG, que le jeu est beaucoup à gauche, que c'est compliqué côté droit. Donc, faut voir quelles solutions vont être mises en place. Hein. Donc, à suivre. Est-ce que vous voulez parler des 3-2 ? Bon, on a déjà un peu parlé du match de Mbappé, donc je ne sais pas si on va en reparler. Vous voulez dire un mot du match de Neymar ? Parce que le match de Sarabia et ses 21 ballons, on en a aussi un peu parlé. Pas forcément pour dire des bonnes choses. Est-ce que vous voulez parler du match de Neymar pour finir ce podcast de débrief de PSG Benfica ? Dan, Mathieu, Omar, je ne te mets plus de donner la parole, mon pauvre, avec ton micro, ma foi, en très mauvais état. Dan ou Mathieu, sur le match de Neymar, un petit mot quand même, parce que c'est quand même une rencontre. J'ai l'impression que Dan, tu n'as pas trop apprécié sa partie, toi.
Ah bon ?
Ah, je sais pas, c'était ce que j'avais compris tout à l'heure, mais visiblement, j'avais compris à l'envers.
Non, je crois que c'était Omar qui parlait de ça, pardon, en disant qu'effectivement... Il y avait aussi des choses qu'on pouvait lui reprocher. Voilà, bon après, c'est sûr que c'est pas son match le plus abouti, mais moi, dans une rencontre comme ça, assez apathique, j'apprécie quand même le tempérament du joueur et la volonté de pas abandonner, de toujours... vouloir faire des différences, de systématiquement se remobiliser. Après, voilà, je pense qu'il a essayé de, parce que ostensiblement de faire de trouver Mbappé dans, ils étaient d'ailleurs, je crois qu'on avait déjà évoqué ça, ils étaient sur le même côté du terrain. Mais il peut ne pas y avoir superposition, contrairement à ce qui a été dit par-ci par-là. Il peut ne pas y avoir superposition quand il y a échelonnement de leur hauteur. Et quand tu as un lanceur, Neymar, et un receveur, Mbappé, je pense qu'on l'a vu quelques fois, c'était intéressant. Après, ce qui a manqué, je pense aussi, c'est que qui partait peut-être d'un peu plus bas, il m'a manqué les moments où Paris arrivait dans les 20 derniers mètres, bah, surtout via Mbappé, qui soit un peu plus présent devant, parce que lui, pour le coup, voilà, en retrait, ou je pense que il aurait pu participer au fait de générer, j'allais dire un peu plus d'occasions, mais des occasions tout court. Voilà, c'est pas lui aussi il enchaîne les matchs, il y a match dimanche, il y a la volonté de pas se blesser, mais encore une fois je trouve qu'il calcule pas j'apprécie son attitude, c'est clairement pas son meilleur match,
mais il y avait de la moelle.
Ah oui, je trouvais que c'était quand même consistant.
Non, mais je suis d'accord avec toi, vu les circonstances. Enfin, il y a quand même la Coupe du Monde dans un mois à pile. Il se fait éclater la cheville quand même à la fin, parce que le tacle, c'est Enzo encore, si je me trompe pas, qui lui fait mal encore. Et il sort pas, il va jusqu'au bout et tout. Autant on sait qu'il a pas toujours été très impliqué ni très professionnel, autant sur un match comme hier, il va jusqu'au bout de lui-même, il fait tout pour faire gagner.
Ouais, et puis il est encore meilleur dans les 20 dernières, peut-être que c'est la meilleure partie de son match dans les 20 dernières minutes. Alors c'est sans doute pas suffisant par rapport à ce qu'on peut attendre de lui, hein, bien sûr, mais j'aime bien cette idée-là, quoi, qu'au moment où ça chauffe un peu, bon, bah, c'est Paris crée pas des situations géniales, mais voilà, il y a une action avec Hakimi, enfin à la 90e, il trouve Fabian, mais qui rate un peu sa prise de balle. Il y a quelques situations comme ça. Bon. C'est pas le match dont on parlera dans 6 mois ou dans 6 ans, c'est sûr.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon. Je sais pas si Mathieu veut rajouter quelque chose sur le match de Neymar. Non, rien à rajouter de la part de Mathieu. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là sur ce PSG Benfica. Je crois qu'on n'avait pas fait un podcast de débrief d'un match aussi court depuis je ne sais combien de temps. On nous dit, peut-on parler du fait que Zaïre Emery et Garbi ont été empêchés de jouer avec les U19? Bah après, il faut. Si on enlève Zaïre Emery, Garbi et Bichiabu du banc de touche hier, on se retrouve avec 16 joueurs, dont un gardien. Voilà. On ne peut pas, au bout d'un moment, se permettre d'avoir aussi peu de joueurs disponibles, quoi. On ne sait jamais, au cas où, oui, je sais que c'est gênant, ça fait. Ça donne l'impression que les gamins servent à rien, mais il faut bien remplir des feuilles de match. Je suis désolé. Aujourd'hui, ils sont un peu dans cette situation bâtarde. Bah, après, ils ont fait une petite opposition à l'entraînement aujourd'hui, mais bon. C'est comme ça. Il y aura toujours ce genre de truc quand les joueurs sont entre deux catégories. Ça arrive souvent comme ça. Voilà. Je me demande ce que Simon a pensé du match de Paredes face au Maccabi. Simon est venu se plaindre que le site ait traité les propos peu.
Il s'est plaint auprès de moi-même également.
Comment ça, tu disais rien quand il faisait des bons matchs? Alors bon, je cherche les bons matchs, mais voilà, il a vu la chose et il n'a pas apprécié qu'on en parle. Parce que, bon,
je pense que c'est encore Faïza qui a passé des coups de fil à la rédaction de Culture PSG pour orienter la ligne éditoriale concernant Paredes.
Tout à fait. Alors, arrête de m'appeler à 8h15, j'emmène les petits à la crèche. D'accord, Faïza? Merci. On nous dit, que pensez-vous de la dernière info Mbappé qui pourrait rompre son contrat? C'est complètement bidon, d'après plusieurs personnes que je suis allé interroger cet après-midi quand j'ai vu passer la chose. Ça fait parler les avocats, et puis ne serait-ce que les temps de traitement du dossier, le contrat de Mbappé sera déjà fini. Voilà. Non, mais c'est...
Faut quand même attendre l'avis de Juan Branco, quand même.
Ça, c'est drôle, ça, Mathieu. Ça, petite blague pour finir, comme ça, très bien. Non, honnêtement, il n'y a pas de quoi aujourd'hui s'inquiéter trop. C'est très, très, très hypothétique. Et Maxou, s'il veut venir nous en parler dans le podcast au lieu d'en parler sur Twitter, vous confirmera que ce n'est pas du tout envisageable. C'est pratiquement impossible. Moi, il y a un truc qu'on m'a dit, ne serait-ce que les prud'hommes, si ça doit finir là-bas, ça met tellement de temps qu'il sera depuis 2 ans au Real Madrid que ça sera encore en train d'être jugé. Quoi. Voilà. Donc... Mediapart croit que le PSG c'est la CIA. Non, mais bon, est-ce que l'article du jour sur le compte en question vous a beaucoup surpris? Moi, pas tant que ça, paradoxalement.
Et ça, on le savait depuis 2-3 ans, non?
Bah, ça avait un peu fuité à l'époque, oui. Que c'était un...
Je pense qu'à l'époque, on disait que c'était soit Touboul, soit Rib derrière, et que ça avait été créé pour contrebalancer le poids de Paris United. Je pense que c'était autorité publique à l'époque. Mais...
Oui, ça avait un peu filtré sur le milieu des tweetos parisiens et tout. Après, tout le monde ne s'en rappelait pas parce que tout le monde n'a pas la mémoire de Mathieu. Mais bon, voilà quoi, c'est pas. C'est
un club complètement à la dérive pour créer un faux compte pour contrebalancer Paris United. Hein. Je tiens à dire, dans quel état sommes-nous réduits?
Bah, globalement, quand tu fais les mêmes choses que Bartomeu au Barça, ça ne sent pas très très bon pour toi. Donc voilà où on en est actuellement. Donc c'est comme ça. Voilà, on nous parle du match du 19. U19, j'ai fait un podcast cet après-midi avec Lucas de 45 minutes que je dois vous mettre en ligne, j'ai complètement zappé de le faire. On nous dit pour critiquer Mbappé, ça va, Mbappé, il y a un tweet sur lui. Rabiot, par exemple, se fait quand même vraiment insulter par le même compte, prend vraiment, vraiment des grosses insultes et tout ça. Mbappé, il y a un tweet. Enfin, voilà quoi. Ça tient pas trop la route globalement. Quoi. Est-ce que Messi sera de retour pour le Classico? Alors, Lionel Messi ne joue plus au FC Barcelone, donc il ne sera pas là pour Barça-Real. En revanche, il est possible qu'il soit disponible pour PSG-OM de dimanche, qui est donc le classique à la française. Je taquine, mais les échos du jour sont plutôt positifs, mais lui, il pensait déjà être remis pour le match d'hier soir, il n'était pas là. Après, là, ça ferait... Il a été touché le 6... le 6 à Benfica. On joue le 16 contre Marseille, ça ferait 10 jours pour une contracture. Bon, même si c'est au Molex, c'est un endroit un peu particulier. Non, pardon, il a été touché le 5, il joue le 16, ça ferait 11 jours pour une contracture. Normalement, ça devrait être bon, quoi.
Même d'ailleurs, si... ça va être intéressant contre l'OM, juste vite fait, de voir comment Paris va attaquer la profondeur contre l'OM qui défend souvent. En un contre un qui essaye d'aller te chercher et qui va, si Paris garde son système habituel, qui va, donc les deux systèmes se calqueront. Et ça va être intéressant de voir est-ce que c'est Mbappé qui va décrocher pour attirer l'axial avec Neymar qui plonge, est-ce que ça va plutôt être. C'est plutôt Neymar qui va décrocher avec Mbappé qui va aller plonger à gauche et s'excentrer. Mais ça va être intéressant de voir comment Paris aura préparé ça.
Alors, Dan, tu oublies un truc, c'est qu'il y a encore 3 jours ou 4 jours même avant le match. Je te laisse imaginer le nombre de dingueries que le club parisien va pouvoir sortir d'ici là. Ne l'oublions pas. Nous sommes actuellement à un rythme impressionnant de une dinguerie par jour, quand c'est pas deux dingueries par jour.
Et à mon avis, Mediapart, c'est pas sûr qu'ils aient... C'est rare qu'ils mettent tout d'un coup.
Non.
Ah, il feuilletonne, comme on dit.
Voilà. Préparons-nous.
Préparons-nous, nous allons avoir de l'actualité dans les prochains jours. Voilà. Le divertissement Saint-Germain devrait une nouvelle fois nous régaler, en espérant que bon, ça ira. Voilà. Est-ce que nous avons vu Aminata chez Sabri? En partie, oui, mais.
On aurait préféré ne pas voir.
Disons que j'ai pas réussi à aller au bout. J'ai vite coupé parce que ses propos tenaient pas la route à elle. Déjà que ça me fatigue cette histoire, j'avoue que j'ai pas eu le courage d'aller bien longtemps. Quoi. Voilà. Vous avez plein d'extraits qui tourneront, vous comprendrez que c'est pas. Pour ceux qui ont suivi tous les rebondissements de l'affaire et tout ça, c'est un peu bizarre. Il y a des trucs qui tiennent pas la route. Après, il y en a une autre demain qui
sort. Que dit ton NIF, Philo?
Mon NIF est un peu bouché comme tous les lundis soirs, mais bref, c'était. Ceux qui sont vraiment intéressés par sa défense et tout, vous pouvez regarder. Au pire, ça vous prendra une heure, hein, c'est pas très grave. Mais bon, c'est pas non plus. Je sais qu'RMC en diffuse une demain et je pense qu'il y aura des transcripts, ça vous permettra de gagner du temps comme ça. Voilà. Allez, sur ce, on va vous dire à lundi prochain pour débriefer le PSG-OM. Peut-être d'autres aventures. On va mettre en pause pour l'instant le Mbappé Gate, tout ça. Monsieur a envie de partir. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bah écoutez, on va s'en passer. Je suis désolé, vous avez déjà plein de débats qui sont disponibles ailleurs.
On avait fait le débat lundi.
Non, mais depuis, on a appris qu'il voulait partir quand même, Mathieu.
Ça se. Mais.
Oui. Bon, il partira pas cet hiver, donc on a encore 8 mois pour le faire, mais bon, on apprend des choses hein, quand même. Mais bon, on aura largement le temps d'en reparler. Puis bon, vu qu'on a fait un podcast très tardif, on va pas aller jusqu'au bout de la nuit non plus. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée à tous. Encore merci pour votre présence. On s'excuse un peu de l'horaire, mais c'était compliqué de notre côté d'organiser un autre jour. Oui, le podcast Youth League, je vous le mets tout de suite en ligne pendant que je suis en train de traiter celui-là. Il n'y a pas de souci, je vous promets. Et je vous le répète, si vous voulez les podcasts au plus vite, c'est beaucoup plus rapide de passer par Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tout ça, que de passer par YouTube qui met 1000 ans à vérifier, machin. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée, bonne nuit, gros bisous à tous et à lundi prochain. Salut tout le monde.
Ciao, bonne soirée.
Salut tout le monde.
Le casque d'Omar remarche, c'est le bon moment, tiens. Allez, à lundi, salut, bisous.
Allez, ciao.